Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus le Christ selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique pour le 29e dimanche. Jésus leur dit une parabole sur ce qu'il faut prier en tout temps et ne jamais se décourager.
Dans une ville, il était un juge qui n'avait aucune crainte de Dieu et aucun respect pour personne. Dans cette ville-là, il y avait une veuve qui vint vers lui pour lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il refusa longtemps. Mais après, il se dit en lui-même « Même si je n'ai ni crainte de Dieu ni respect de personne, comme cette veuve me cause des tracas, je lui rendrai justice, de crainte qu'elle vienne sans fin me casser la tête. » Le Seigneur dit, « Écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait aucunement justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Il se montre patient avec eux. Je vous dis qu'il a hâte de leur faire justice. Mais quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Cette parabole peut nous surprendre, sinon nous choquer. Pour parler de Dieu, notre Père, Jésus aurait pu choisir la figure d'un juge moins véreux. Qu'est-ce que Dieu peut avoir à faire avec un tel personnage?
Alors regardons comme à l'habitude le contexte. Il peut déjà nous situer sur ce que sera le fondement de cet enseignement, de cette parabole. Elle vient en effet après un texte où Jésus parle du but final de la vie, de la destinée des êtres humains. Et c'est là, en réponse à la question des pharisiens, quand va venir le règne de Dieu sur cette terre ? Ce qui signifie, entre autres, quand Dieu va-t-il triompher du mal ? En effet, que suppose cette question de la venue du règne de Dieu ? On dit que Dieu est tout-puissant et pourtant, son règne est mis en échec. Alors pourquoi Dieu n'use-t-il pas de sa toute-puissance pour empêcher le mal et faire régner la paix et l'amour? Pourquoi Dieu n'envoie-t-il pas un Messie puissant pour punir les malfaisants et récompenser ceux qui sont fidèles à sa règle de vie, à sa Torah? S'il y avait un bon Dieu, combien de fois n'entendons-nous pas cette exclamation, que ce soit dit avec amertume ou avec agressivité? Et qu'est-ce que l'on veut dire par là? Eh bien, on veut dire que s'il y avait un Dieu qui fasse régner la justice, cela n'irait pas aussi mal pour les gens qui sont innocents, pour les braves gens. Et cela n'irait pas aussi bien pour les canailles, les gens sans scrupules qui exploitent leurs semblables. En effet, les fortunes des gens de ce monde ne sont pas toujours, loin de là, le fruit du seul travail, mais trop souvent celui de l'exploitation des plus pauvres. Ne semblerait-il pas que ce soit toujours les mêmes sur qui le malheur s'acharne? Et cela nous scandalise, car ces gens malchanceux ne sont pas plus méchants que d'autres à qui tout profite. Ne dit-on pas aussi que ce sont toujours les petits qui paient? Dans un livre important, Ce Dieu absent qui fait problème, le Suisse François Varone rapporte ce fait.
Enterrement d'un jeune homme de 24 ans. À l'introduction de la liturgie, le prêtre parle, en touche certes discrète, mais combien incisive à un tel moment. Il parle de la volonté de Dieu, de la sagesse impénétrable de la divine providence qui a voulu nous faire passer par une telle épreuve. À l'homilie, deux thèses vont s'affronter, celle de l'expérience et celle de la foi. L'expérience. La mort brutale d'un jeune homme de 24 ans est un non-sens insupportable, et on ne voit vraiment pas pourquoi Dieu veut ou permet cela. Serait-ce que Dieu est méchant, sadique, aimant à faire souffrir, à faire sentir sa toute-puissance, en brisant arbitrairement les projets de l'homme? La foi. Dieu est bon, Dieu nous aime, il faut le croire. Même contre toute évidence, Dieu est bon.
Oui, voilà deux thèses, celle de l'expérience du mal et celle de notre foi en un Dieu très bon. Et c'est dans le cadre de cette difficile question du mal, de ce mystère qu'est le mal, que doit être comprise la parabole du juge qui fait attendre sa justice. Dans notre parabole, y aura-t-il une réponse à cette terrible question ? Eh bien, cette parabole rapporte un fait divers. C'est l'histoire d'un juge d'une petite ville et d'une veuve. Elle peut être jeune encore, car il pouvait en effet y avoir à l'époque de très jeunes veuves, puisque on mariait les filles vers l'âge de 13-14 ans. Et il doit s'agir d'une histoire d'argent, car la cause est apportée devant un juge seul et non pas devant un tribunal. Ce juge d'ailleurs aura toute liberté pour rendre son verdict, sans qu'on puisse même faire appel de son jugement. Et celui qui doit de l'argent est probablement un homme riche qui doit être très influent auprès du juge. Pour comprendre cela, utilisons la description d'un tribunal de Mésopotamie au siècle dernier.
Le cadi, le juge, était assis en face de l'entrée, à demi caché dans ses coussins et entouré de ses secrétaires. Dans la salle se pressait le peuple, et chacun tentait de faire venir en premier son affaire. Les plus astucieux chuchotaient avec les secrétaires, leur glissaient quelques pourboires, et avaient vite terminé. Une pauvre femme qui s'était glissée au bord de la foule interrompait sans arrêt la procédure en demandant à grands cris qu'on lui fasse justice. On la rappela sévèrement à l'ordre, lui faisant grief de venir chaque jour. « Je continuerai à le faire, » cria-t-elle à haute voix, jusqu'à ce que le cadi « m'écoute. » En fin de séance, le cadi, impatienté, demanda « Que veut cette femme ?» Son cas fut rapidement exposé. Le percepteur voulait la forcer à payer l'impôt, bien que son fils unique eût été pris pour le service militaire. Ce fut rapidement réglé, et sa persévérance fut ainsi récompensée. Si elle avait eu de l'argent pour soudoyer un secrétaire, on lui aurait bien plutôt rendu justice.
Notre parabole est donc une histoire sans doute banale et courante. Mais en Israël, la Torah considérait le déni de justice comme le plus grave des crimes. Avec l'étranger et l'orphelin, la veuve jouissait d'une protection spéciale définie par la Torah. Évoquons quelques-uns de ces textes dans les prophètes Jérémie et Isaïe.
N'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Vous ne maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu le maltraites et s'il crie vers moi, j'entendrai son cri.
Alors pourquoi cette assimilation du cas des veuves à celui des immigrés et des orphelins ? Eh bien parce qu'à l'époque, ces trois catégories de gens étaient sans droit juridique et donc sans capacité de se défendre. Souvenons-nous que nous sommes alors dans une société très patriarcale, où seul l'homme est sujet de droit. Mais cette parabole a une portée symbolique universelle à travers ces pauvres sans défense. Voilà camper le scandale de l'exploitation des petits par les puissants. Et pour aller élargir la situation, c'est aussi le scandale des pays moins développés par les pays riches. Le scandale des enfants traités en esclaves ou abusés par les violeurs de toutes sortes. Qu'est-ce que la foi en un Dieu tout aimant peut dire à tous ces opprimés ? pour bien comprendre cette parabole, il faut se souvenir que la parabole n'est pas comme une allégorie. Dans une allégorie, tout détail devient le symbole de quelque chose ou de quelqu'un. Ainsi, si ce récit que nous avons aujourd'hui était allégorique, le juge représenterait Dieu. Dans la parabole, au contraire, c'est la pointe, la leçon de l'histoire qui importe. Et dans notre récit d'aujourd'hui, tout est centré sur l'action finale du juge. Même s'il tarde, le juste jugement finira par arriver. Le juge, certes, est bien décrit comme quelqu'un d'inique, sans respect pour la Torah, et ne peut donc pas représenter Dieu, le juge éternel. Le comportement de ce juge défigure d'ailleurs le projet de Dieu sur le monde, car Dieu veut la justice entre tous les êtres humains. Il veut que chacun, chacune, soit traité également, dignement, comme un fils, une fille de Dieu. Mais alors pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour faire justice dès maintenant en faveur de tous ceux qui sont exploités? Pourquoi semble-t-il se comporter comme ce juge qui ne rend pas justice aux petits et qui les méprise? Ce n'est pas sans raison que Jésus a choisi cette histoire. Elle traduit, sans doute, l'immense mystère qu'est le mal dans une création que l'on considère comme l'œuvre d'un Dieu d'amour. Elle traduit cette lancinante interrogation de l'absence apparente de Dieu.
Quelle est la réponse apportée par la parabole?
Le juge va finir par rendre justice, même s'il le fait pour s'assurer sa propre tranquillité. Alors à bien plus forte raison, nous dit la parabole, le Dieu qui est infiniment juste et bon finira par rendre justice à tous ses élus. Dans le récit de Luc, le mot « élu » désigne ceux qui sont entrés pour toujours dans la vie d'éternité, ceux qui vivent dans le règne du Père, ayant trouvé le bonheur. Ils sont sur le chemin du bonheur, les pauvres, ceux qui ont faim maintenant. Ils seront rassasiés. C'est à eux qu'est le règne de Dieu. Ce sera au terme de l'histoire, dans la terre de l'éternité, que la justice sera faite.
Pourquoi faut-il donc attendre le ciel pour que la justice soit faite?
Eh bien, j'emprunte encore à François Varone une petite parabole. Il y avait une fois un architecte fraîchement sorti de l'université. On le chargea de la construction d'une très belle maison, une villa, dans un endroit merveilleux, entre une rivière et une forêt. Bientôt, il ouvrit un chantier. Et l'emplacement merveilleux en fut complètement gâté. Terrassement, chemin boueux, flaque d'eau sale, sac éventré, bruit continuel. Il y eut même des accidents de travail. Le propriétaire porta plainte contre l'architecte. « Voilà, dit-il, un homme qui a étudié pendant des années comment faire du beau et qui ne trouve rien de mieux que de détruire et de polluer le merveilleux terrain que je lui ai confié. » Comment l'architecte pourra-t-il se défendre, se justifier? Sinon, en invoquant l'avenir, l'avenir qui est déjà sur ses plans d'architecte. Mais encore, faut-il savoir les lire, ces plans? L'avenir qui sera dans la réalité, la villa achevée et les chemins nettoyés. Mais encore faut-il aller avec l'architecte jusqu'au bout du chantier. Eh bien, cette parabole nous dit qu'il est fou de vouloir justifier Dieu et sa bonté sans lire correctement son plan, sans aller avec lui jusqu'au bout de son œuvre. Et son plan n'est pas de se laisser utiliser pour notre confort actuel, mais de nous attirer jusqu'à la vie auprès de lui. À oublier la résurrection, il n'est plus possible de parler correctement de Dieu, car s'il s'agit seulement de maintenant, c'est-à-dire pour guérir, pour manger à sa faim, pour sortir de prison ou de dépression, pour trouver du travail, eh bien à ce niveau-là, Dieu ne fonctionne pas. Non, Dieu n'est pas comme l'assistance sociale organisée par des mouvements humanitaires, ou bien comme le bien-être social accordé par l'État. Dieu n'est pas paternaliste et ne couve pas l'être humain comme on le fait avec des nouveau-nés. Dieu n'a pas créé l'être humain tout achevé, comme une marionnette ou un robot prêt à fonctionner. Il a fait l'humain comme quelqu'un qui doit se construire librement. Même si Dieu veut être envers nous comme un père, Il ne nous impose pas sa paternité. Il ne nous est pas imposé de devenir fils de Dieu. Nous avons à choisir d'accueillir la paternité de Dieu. Et le modèle parfait de cet humain fils de Dieu, eh bien c'est Jésus. Or Dieu n'est pas intervenu pour empêcher Jésus de souffrir et d'être crucifié. Jésus est allé jusqu'au bout du plan d'amour de Dieu. Et sa vie débouchera sur la résurrection, sur la vie d'éternité. Voilà où s'achève le plan d'amour de Dieu, à notre résurrection. Le bonheur total achevé n'est pas en dehors de notre vie terrestre, comme peut le faire croire une fausse interprétation des béatitudes, qui serait « Heureux serez-vous au ciel, vous qui souffrez sur la terre ». Non, le bonheur plénier est au terme de notre vie terrestre, mais comme étant son fruit, c'est-à-dire dans la mesure où notre vie s'est construite dans l'amour, au cœur même des joies et des épreuves. Voilà l'espérance chrétienne, comme l'affirme Paul dans l'Épître aux Corinthiens.
Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
La résurrection, c'est le plein sens de l'existence humaine, la plénitude de notre vie, lorsque cette vie est vécue en communion avec Dieu.
Dieu se montre patient, mais je vous dis qu'il a hâte de faire justice.
Dieu patiente. Ce mot vient du verbe « pâtir » qui signifie « souffrir ». Au Québec, les malades s'appellent encore souvent des patients. Donc Dieu patiente, Dieu souffre, et il souffre de la souffrance de ses fils et de ses filles. Mais Dieu a l'espérance indéracinable que cette patience d'amour arrivera à convertir nos cœurs. Comme le père du prodigue, qui a patienté, mais avec une hâte immense de voir revivre son fils, de le voir vraiment heureux et libéré. Combien y a-t-il de pères et de mères qui patientent ainsi avec leurs jeunes en pleine crise? Dieu patiente, car empêcher le méchant d'agir par la contrainte, ce serait briser sa liberté. La justice humaine qui condamne et punit le méchant peut certes lui enlever les moyens de mal faire, mais elle ne peut l'obliger à faire le bien. Lorsque l'on parle d'un Dieu juge tout-puissant, voudrait-on qu'il nous châtie et nous punisse sans espérer nous voir changer notre comportement? Même la justice de Dieu ne peut contraindre notre liberté. Il faut certes davantage que des sanctions pour éveiller l'étincelle de bonté dans un cœur qui a souffert et qui s'est endurci, jusqu'au point de mal faire, de faire le mal. Si Dieu patiente, c'est qu'il espère toujours que celui qu'il crée va un jour épanouir sa liberté en trouvant le chemin de la vraie vie. Le temps de l'histoire, le temps terrestre de chaque vie humaine est celui de la patience de Dieu. Jésus l'a dit dans sa première prédication à Nazareth. « Notre temps, dit-il, est celui de l'an de grâce et non celui de la colère de Dieu. » Déjà, Moïse avait entendu Dieu se définir comme le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, un Dieu qui reste fidèle, qui supporte la faute, la révolte et le péché. Écoutons ce que dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre.
Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il y a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion.
Ce que nous appelons le retard de Dieu dans la venue de son règne, c'est sa patience infinie qui ne désespère jamais de notre conversion. Et Pierre se sert ici d'un texte du Siracide.
L'humble n'a de cesse que le Très-Haut n'ait jeté les yeux sur lui, qu'il n'ait fait droit au juste et fait justice. le Seigneur ne tardera pas, il n'aura pas de patience envers eux. »
Dans ce passage, le Siracide compare Dieu à un juge. Ce juge écoute les doléances de tous, pauvres, opprimés, orphelins, veuves, surtout quand leurs prières sont faites avec persévérance. Et ces prières sont l'écho du cri de tous les exploités de la terre pour que justice soit faite. Et le Siracide voudrait que Dieu intervienne rapidement. Le Seigneur ne tardera pas, il n'aura pas de patience envers eux. Autrement dit, que Dieu manifeste sa toute-puissance en punissant les malfaisants. Eh bien, au contraire du Siracide, Jésus parle d'un Dieu qui patiente. Car cette patience de Dieu est la véritable manifestation de son amour. C'est par amour que Dieu se rend impuissant devant les pécheurs pour respecter notre liberté. Vouloir un Dieu qui punit au lieu de patienter, c'est comme blasphémer l'amour de Dieu.
Quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre ?
Cette dernière phrase ne montre-t-elle pas un certain pessimisme chez Jésus ? Ou bien est-elle une invitation pressante à ne pas relâcher notre espérance ? Jésus sait en effet combien il n'est pas facile d'être fidèle. En effet, devant l'absence de Dieu, chacun peut peut-être agir comme si Dieu n'existait pas. Devant le mal omniprésent, chacun peut finir par s'en accommoder. Qu'est-ce que cela donne de vouloir changer le monde? Tout est toujours pareil. Écarter Dieu de notre vie, c'est faire de notre existence une petite vie limitée à cette terre où on naît et on meurt, point final. Jésus veut forcer notre regard à bien lire jusqu'au bout le plan de Dieu, à ne pas rétrécir notre espérance, car l'être humain est fait pour Dieu et pour une vie d'éternité. Voilà le sens que peut avoir cette prière constante qu'il nous demande. Ouvrir sans cesse notre cœur à l'espérance que Dieu veut y inscrire. Nous placer sur la longueur d'onde de l'amour infini, de l'amour divin. La gloire de Dieu, c'est l'humain vivant. Et la vie de l'humain, c'est la vision de Dieu, comme le disait Irénée. C'est en Dieu que se trouve notre véritable destinée. La prière est ce qui nous place constamment sur la longueur d'onde de notre destinée éternelle, cette destinée promise à tout être humain. Et c'est pourquoi elle doit nous soutenir dans notre fidélité à la pensée de Dieu. Croire au destin éternel de l'humain est lié à notre combat pour défendre les droits des opprimés. Tant qu'un seul être humain est humilié et exploité, tous les êtres humains sont comme défigurés. Ne pas lutter pour la dignité de tous, c'est trahir le plan de Dieu. Écoutons ce que disait un évêque au synode romain de 1971.
Cette image de Dieu a été perdue par l'égoïsme et l'orgueil, et elle est sauvée par la mort et la résurrection de Jésus. En conséquence, nous ne sommes ni naïfs ni pessimistes sur l'homme. Celui-ci est tendu douloureusement vers un avenir de libération. C'est cette espérance que l'Église doit vivre et dont elle doit témoigner. Un monde avare sera toujours un monde divisé. Tant que les nations riches n'auront pas trouvé le supplément d'âme requis pour maîtriser la société de consommation, le partage ne sera pas possible et le progrès ne fera qu'aggraver l'asservissement et le gaspillage des ressources des plus pauvres, aussi longtemps que l'argent sera la force suprême qui dirige la vie collective. Pour jouer correctement son rôle de sentinelle de l'Évangile, l'Église devrait dénoncer autrement que par des formules vagues ceux qui, tout en se disant chrétiens, violent effrontément l'Évangile et les droits humains, en recourant à des moyens comme la torture, la violence.
L'Église devrait dénoncer ceux qui, tout en se disant chrétiens, violent effrontément l'Évangile et les droits humains, en recourant à des moyens comme la torture et la violence. Oui, c'est sur cette terre qu'est le lieu où se prépare et se construit le royaume éternel de l'amour. Et Dieu n'a qu'une hâte, une hâte qui est à la dimension infinie de son amour, une hâte que chaque humain devienne fils, fille divin, pour que chaque humain entre dans la grande communion qu'anime la Trinité divine.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Le numéro 514-256-4110. Vous pouvez aussi trouver le texte de cette émission sur Internet. L'adresse de notre site www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, revenez-nous la semaine prochaine et en attendant, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.